Alors bonsoir à tous. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Jean-Baptiste Desvaux qui va poursuivre la petite bibliographie de la pulsion qui a été entamée par Mathieu Garraud lors de...
Biographie.
J'ai dit quoi ?
Biblio.
Bibliographie, la petite biographie de la pulsion. Donc Jean-Baptiste Desvaux est psychologue clinicien. Il a une importante expérience dans le travail clinique auprès d'enfants. Il travaille actuellement dans deux ITEP, Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, donc qui s'occupe d'enfants qui présentent des troubles du comportement, enfin d'enfants et d'adolescents qui présentent des troubles du comportement. Et puis il travaille aussi dans un lieu d'accueil pour parents et enfants séparés. Voilà, pour vous présenter brièvement qui est Jean-Baptiste Desvaux, que vous avez écouté pendant une heure pour suivre la biographie de la pulsion.
Enfin, entendre après écouter, je pense.
On verra par la suite.
J'avais préparé beaucoup de choses comme ça, que j'ai essayé d'écrire de façon plus ou moins organisée. Puis finalement, peu de temps avant de venir ici, après je me suis dit, je ne vais pas vous lire ça parce que j'avais peur de vous ennuyer. Puis à la fois, j'étais pris dans ce mouvement de me dire, bon ben, d'avoir écrit autant de choses et de pas forcément les utiliser, ce serait dommage. Donc je pense que je vais essayer de négocier comme ça entre Charib et Sidla, un petit peu entre les deux. Et puis voilà, en espérant qu'on puisse essayer de trouver dans la seconde mi-temps une forme de jeu autour de ça. L'idée ce soir, c'était de vous parler de la pulsion. Alors Mathieu Garraud avait commencé une première présentation autour principalement du contenu de l'œuvre freudienne, essentiellement autour des trois essais, et donc 1905, si je dis pas de bêtises, et Pulsion, dessin et pulsion, 1915. Voilà, donc là l'idée c'était un petit peu de pouvoir vous proposer quelque chose qui s'inscrive à la fois dans la continuité de ce qui a été fait, puis à la fois en écart, entendu que je me suis beaucoup focalisé sur essentiellement un auteur, Donald Winnicott, dont je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, qui était pédiatre, qui est devenu psychanalyste. Et donc de cette double pratique comme ça, d'ailleurs la pratique pédiatrique qu'il a maintenue presque tout au long de sa vie, lui a permis d'accéder à certains aspects de la nature humaine. Voilà, que les psychanalystes, dès lors qu'ils ont que leur pratique analytique, peuvent peut-être, eux de leur côté, avoir une pratique qui... Il y a certains aspects de la vie qui échappent. Un travail que j'ai fait aussi essentiellement autour d'un ouvrage qui s'appelle La nature humaine, voilà, de Donald Winnicott, un ouvrage peu connu. Alors Winnicott, il a quand même pas mal écrit, même si, je ne sais pas qui d'entre vous le connaît ou le connaît pas, mais il a écrit un millier d'articles. Il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont un petit peu moins de 20 sont traduits en français. Et sur l'ensemble de ses ouvrages, finalement, il en a écrit un seul. C'est-à-dire que sur l'ensemble des livres qu'on peut trouver de lui, globalement, ce sont tous des livres qui sont des recueils d'articles, des recueils d'interventions, de conférences. Et alors, il a écrit aussi deux longs récits cliniques, La petite Piggle et puis Fragments d'analyse, enfin, c'est traduit comme ça en français. C'est Holding et interprétation, le titre littéral. Et donc du coup, c'est deux longs récits cliniques, une série d'ouvrages qui reprennent des articles, et puis un seul livre, à proprement parler, qu'il a essayé de construire de A à Z, et qui a eu la particularité finalement de jamais avoir été traduit, enfin jamais avoir été publié, pardon. Et voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu vous parler de ce travail, de Winnicott, autour de ce travail à partir de la pulsion. Ouvrage dans lequel il a essayé de recenser, on va dire, l'ensemble de ses pensées. C'est un ouvrage aussi qui s'adressait à des non-spécialistes, parfois même à des néophytes. Il donnait beaucoup de cours voilà, dans des instituts de travail social, auprès d'infirmiers, auprès d'enseignants. Et cet ouvrage était censé, s'il avait réussi à être publié, je dirais au moment où il l'a écrit, était censé justement être le manuel un petit peu pour les gens qui venaient assister à ces conférences. Manuel qui aurait évité aux personnes de prendre des notes. Voilà. je trouvais l'idée intéressante. Je vais commencer du coup pour essayer quand même de dire un petit peu ce que j'ai écrit. Alors j'ai fait le choix aussi de ne pas utiliser de PowerPoint, de présentation, tout ça. J'étais pris comme ça dans une forme d'ambivalence par rapport à ça. Et finalement, peut-être que la paresse m'a permis d'opter pour le choix de ne pas utiliser la technique ce soir. Freud lui-même aborda presque tous les aspects des relations entre les personnes. Et il est en fait très difficile maintenant d'innover, sauf en faisant un exposé neuf de ce qui est déjà reconnu. Freud fit pour nous le plus dur du travail. Il mit en évidence la réalité de l'inconscient et sa force, parvint à la douleur, à l'angoisse et au conflit, qui est invariablement à la racine de la formation de symptômes. Et mit en avant, au besoin, avec quelque arrogance, l'importance de la pulsion et la signification de la sexualité infantile. Une théorie qui dénie ou court-circuite ces questions est une théorie qui ne sert à rien. Voilà ce qu'écrit Donald Winnicott dans les premières pages de La nature humaine. Et ça va donc être notre point de départ pour cette intervention de ce soir. Dans cet ouvrage, on verra que même si c'est un ouvrage théorique, on va essayer quand même de prendre appui un petit peu sur de la clinique. Donc du coup, l'enjeu de ce soir, c'est pas de vous entraîner sur une forme de continuité un petit peu historique vers le troisième pas des pulsions de Freud, en 1920, sur l'au-delà du principe de plaisir. Et peut-être que finalement, pour parler de Freud et de la pulsion, on pourra essayer de le faire en apprenant à se passer de lui. Donc en écrivant tout ça, je m'étais dit que finalement, un concept, c'est pas si éloigné d'un individu. Ça a une histoire, une origine, une croissance, un développement. Et la pulsion, à cet endroit-là, elle a aussi tout ce développement-là. Alors certains concepts ont un destin limité, finissent par mourir, parfois même avant d'être nés. D'autres ont un destin plus long. C'est le cas de la pulsion. La pulsion, pourrait-on dire, est arrivée aujourd'hui à une forme de maturité, dont la phase pubère aurait pu être celle de l'au-delà du principe de plaisir en 1920 par Freud, laquelle fut la formalisation de sa crise avec un point de rupture, comme on le verra ou non, tout dépendra du temps qui nous est donné, là où les courants divergent et les avis aussi concernant la dialectique pulsion de vie, pulsion de mort. Donc du coup, mon écrit biographique à cet endroit qui concerne ce concept va suivre mes propres perceptions des pulsions. Et mes propres perceptions, je dirais, de la théorie qui, à cet endroit-là, s'appuie essentiellement sur les auteurs post-freudiens. En pensant à tout ça, en travaillant autour de tout ça, j'ai été amené à relire Freud, à relire aussi d'autres auteurs. J'ai réalisé finalement que la théorie en soi, ça ne servait pas à grand-chose. Voilà. Et donc j'ai essayé de faire le pari ce soir de m'appuyer sur des théoriciens qui ont développé leur théorie à partir, en appui sur la clinique. C'est un petit peu un renvoi aussi à l'au-delà du principe de plaisir de Freud, qui est un ouvrage éminemment théorique, voilà, où il y a très très peu de clinique, à part peut-être celle de son petit-fils, du jeu de la bobine, et pour ceux qui connaissent. Mis à part comme ça certaines références, somme toute assez brèves, on s'aperçoit que finalement c'est un ouvrage qui prend beaucoup appui sur des considérations biologiques, sur l'humain en général. Enfin voilà, je crois qu'il y avait des liens à faire aussi avec cet ouvrage de Winnicott qu'il a intitulé La nature humaine. Je vais essayer de couper un petit peu pour avoir le temps après qu'on puisse dialoguer. Voilà, du coup, en travaillant avec Mathieu Garraud au niveau de certains temps de réflexion, il m'a invité à essayer de penser le Winnicott freudien. Je trouvais que l'expression était habile. Et l'idée, là, ce soir, c'est un petit peu de pouvoir vous inviter à penser autour de ça. Prenons appui aussi sur ce praticien qui a une pratique auprès d'enfants et de bébés. Parce que souvent, en psychanalyse, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais on parle souvent de bébés, hein, dans les théories. on parle des premières étapes de la vie, des premiers temps. Et il s'avère que Freud n'était pas forcément un grand spécialiste de bébés. Donc, tout ce qu'il a essayé de développer à partir de ça, il l'a développé sur une connaissance de l'infantile, dans le sens de, finalement, d'accéder aux souvenirs, plus ou moins manifestes, comme ça, que les adultes peuvent avoir de leurs propres expériences infantiles. Ce qui n'a rien à voir, il faut le dire, avec le fait de pouvoir rencontrer cliniquement, directement, des bébés, des enfants, des adolescents. Je pense que le souvenir qu'on a d'avoir été enfant n'est pas forcément si proche de l'enfant qu'on a été. Voilà. Et à cet endroit-là, je pense que ça a une forte influence sur les théories qui sont développées par les auteurs. Alors, j'avais nommé une partie comme ça de l'importance des pulsions dans le travail clinique ou de l'importance de la clinique pour travailler les pulsions. L'étude des pulsions, elle est centrale dans la théorie psychanalytique. Elle permet de saisir la qualité du travail mutatif des processus psychiques et partant du processus psychothérapique. Ce qui a été plus ou moins amené par Yannick Miller la dernière fois, c'était l'idée de deux outils qui pouvaient nous servir pour penser la pulsion, qui étaient la représentation de mots et le quantum d'affect. La représentation affect et la représentation de mots. Avec cette idée dont je ne sais pas si elle vous parle, la pulsion, comme elle a été présentée, interface comme ça entre la psyché et le soma, elle vient s'inscrire à l'endroit de la psyché sous deux types de représentations, sous une fonction de représentance qui n'a valeur que dès lors que la représentation de mots est liée ou associée, on pourrait dire, à une dimension affective, une dimension émotionnelle, pour le dire simplement. Et que le mot en soi ne dit rien, ne dit rien du sujet. C'est vraiment sa liaison avec le quantum d'affect, et ça c'est Freud qui le dit, qui fait exister justement la représentation de mots et la figurabilité possible de la pulsion au niveau de la psyché. Quand on est sur un divan, en face à face, en côte à côte, comme ça, engagé dans une relation humaine qui a pour objectif le soin, il serait illusoire de croire que tout se passerait suivant un simple fonctionnement langagier, respectant une logique ou une organisation propre aux lois linguistiques. La linguistique n'a jamais été déterminante dans le fonctionnement de la psyché. Alors que le fonctionnement psychique, lui, va sans doute devoir utiliser le langage et son organisation pour se signifier. L'enfant en est une illustration assez simple. En psychothérapie, il joue. Je me demandais même si finalement le fait qu'il joue, ça peut venir nous faire nous interroger sur savoir si c'est vraiment une chose sérieuse finalement. Et son langage, à lui, son mode d'expression, c'est celui du jeu. C'est une préforme qui suit des structures comme ça culturelles auxquelles il est soumis depuis sa plus tendre enfance. Disons que le jeu, dans sa forme élaborée, tout comme le langage verbal, est un construit culturel, alors qu'initialement, il est naturel. Il serait bien alors surprenant de penser qu'il s'agit simplement d'une affaire de langage, quand l'enfant est en psychothérapie, comme ça, et qu'il joue. L'enfant peut bien parler, le thérapeute en face peut bien parler. Si le thérapeute parle seulement, alors que l'enfant, lui, joue, ils ne vont pas se rencontrer. Et si on oublie ça, on est au risque aussi d'une fétichisation un peu intellectuelle de la théorie psychanalytique. Une phrase de Winnicott à cet endroit, qui dit en 68, dans un article qui s'appelle « Jouer, une proposition théorique », qui dit « La psychanalyse s'est développée comme une forme très spécialisée du jeu, mise au service de la communication avec soi-même et avec les autres. Ce qui est naturel, c'est de jouer. Et le phénomène très sophistiqué du XXe siècle, c'est la psychanalyse. » Il serait bon aussi de se rappeler constamment à l'analyste, non seulement ce qu'il doit à Freud, mais aussi ce que nous devons à cette chose naturelle et universelle, le jeu. Tout ça pour dire que finalement, ce qui fait souffrance chez le sujet dont on s'occupe, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse si on veut essayer de penser la question de la pulsion. Mathieu Garot avait présenté ce qu'était la psychanalyse. La psychanalyse, c'est pas que du blabla. C'est ça un petit peu que j'essaye de vous dire. C'est pas juste une construction théorico-théorique. Ça prend appui sur une clinique, sur une praxis comme ça, thérapeutique, qui a pour, je dirais, principal dispositif celui de la rencontre humaine. S'il y a souffrance chez le sujet, la souffrance, elle va être issue d'une forme de déliaison, une forme de dissociation ou d'un manque de liaison entre l'affect et la représentation, à savoir entre les deux effets finalement de la représentance pulsionnelle. Et du coup, en tant que thérapeute, si on ne s'adresse qu'à la représentation de mots, le risque c'est de donner une pseudo-analyse comme ça, qui sera peu engageante sur chacun, qui va renforcer les défenses intellectuelles, mais qui ne changera véritablement rien à ce que l'autre vit en face. Or, le soin psychique, dès lors qu'il essaye de prendre en compte la nature humaine, je pense que c'est une affaire d'expérience vécue. Et qu'on soit sur le divan, allongé, ou qu'on soit assis en face à face, ou assis par terre sur un terrain de jeu avec des enfants, ou assis sur un banc dans les rues de Saint-Étienne, ce qui compte, c'est que des expériences sont vécues. Et je crois que c'est ça qui est central. Le patient, lui, va être traversé comme ça par des émotions pulsionnelles, par des émotions, par des pensées, des souvenirs, des impressions sensorielles. Et le thérapeute qui est en face sera lui aussi traversé par ses émotions, ses pensées, des pensées incidentes, des impressions comme ça, des affects. Il va vivre des choses. Et c'est bien la rencontre de ces deux expériences vécues qui font qu'il y a une rencontre qui est possible. André Green a consacré un ouvrage assez complet à cette question, qui s'appelle « Le discours vivant », je crois que le sous-titre c'est « Études psychanalytiques de l'affect », quelque chose comme ça, qui était un rapport, si je ne dis pas de bêtises, au congrès des psychanalyses en langue française. Et donc c'est un bouquin très complet, je ne vous en parlerai pas, parce que là on se perdrait en complexité véritablement, mais qui permet, si la question vous intéresse, sur la représentance et l'affect, de pouvoir retrouver une étude et une critique de l'ensemble des théories psychanalytiques, de Freud à nos jours, en tout cas à ses jours, parce qu'il l'a écrit en 73, ce livre, comme ça, sur ces deux dimensions. Il y écrit, à propos de Winnicott, que les travaux de Winnicott poussent à leur maximum ce dépassement de l'opposition représentation-affect pour viser à la base affective du sentiment d'existence. Donc c'est par là un petit peu que je vais essayer de vous emmener, qu'on va essayer d'aller ensemble. Tout cela n'est pas issu de la théorie, bien que cela soit de la théorie. Tout ça, c'est déduit par la clinique. Et c'est bien la seule chose qui doit nous guider quand on est perdu dans un traitement. Et je crois que ça, c'est important. Si on écoute plus la théorie quand on est perdu dans une rencontre humaine, on risque de passer à côté de beaucoup de choses et se perdre. Alors, pour modérer ce que je viens de dire, on peut souligner que le dispositif psychanalytique dit classique, dit de la cure type, a quand même pour particularité l'immobilisation de la dimension motrice. Hein. Là, je vous renverrai alors, soit aux écrits techniques de Freud, soit à Jean-Luc Donnet sur la situation analysante, par exemple, qui a un bouquin vraiment bien. C'est un dispositif restreint, celui de la cure type, hein, qui limite, du coup, les voies d'expression de la vie pulsionnelle. Ce dispositif-là, il suggère aussi la mise en œuvre du fantasme par la parole plutôt que par la mise en acte, comme l'enfant, lui, va le faire. Là où l'enfant, lui, prend un train et le fait rentrer dans un tunnel, l'homme adulte pourra peut-être avoir un fantasme de pénétration. Et il le dira avec ses mots. Il n'aura pas besoin de mettre en scène une pénétration de son analyste. Sinon, les analystes pourraient être inquiétés. Donc, du coup, c'est quand même le fantasme qui nous paraît central. Le fantasme qui prend appui, comme mode privilégié d'expression chez l'adulte, en tout cas, par la parole, là, du coup. En tout cas, quand on est sur un dispositif psychanalytique classique, divan-fauteuil. Du coup, la vision dans ce dispositif-là, en tant que support, étayage ou moyen de régulation d'accordage de la rencontre intersubjective, Elle n'est renvoyée qu'au plafond. On est allongé sur le dos, et qu'est-ce qu'on voit ? Le plafond. Ce plafond, il est finalement une forme de butée aussi à la vision, et puis un support projectif. Voilà. On n'a pas accès au visage de l'analyste, alors qu'en psychothérapie, on a accès au visage du thérapeute. Le patient, du coup, ça va générer chez lui différents processus, dont on pourrait dire, pour résumer, pour schématiser un petit peu comme ça, à l'extrême, hein, parce que c'est quand même bien plus complexe, mais on pourrait dire que le patient, de fait, est amené à fantasmer, à imaginer les réactions supposées de son thérapeute. Ne le voyant pas, il se dit, tiens, là, peut-être qu'il m'en veut, tiens, peut-être qu'il peut faire la tête. Oh, si je lui dis ça, non, ça va pas aller. Il est amené à imaginer, à se représenter, parce qu'il n'a pas de prise d'appui, en tout cas au niveau visuel. Alors qu'habituellement, dans une rencontre humaine, quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux, on a une forme d'accordage, comme ça, avec le visage. Là, quand je vous parle, je vois bien vos têtes. Donc, du coup, en fonction des réactions qu'il y a aussi, je vais pouvoir essayer d'adapter mon discours. Si je vous tournais le dos, ce serait éminemment plus complexe. Du coup, le premier processus, ce serait le fantasme. Et le second, on pourrait dire que ce serait la projection. Et que ces deux processus-là, in fine, ils nous parlent de quoi ? Ils nous parlent simplement du processus contre-transférentiel, transféro-contre-transférentiel, on va dire. En gros, du transfert. Voilà. C'est-à-dire que le transfert passe par une élaboration imaginative et une projection sur l'autre. Quelqu'un est pris pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, étant donné qu'on n'est pas analyste, c'est un dispositif particulier que je souhaitais simplement vous souligner, parce qu'il n'est pas inintéressant, il permet aussi de penser les écarts après qu'on va pouvoir trouver au niveau de la théorie. Mais ce n'est pas un dispositif que moi je peux être amené à utiliser. Par ailleurs, il va nous permettre aussi de penser un petit peu comment on rencontre les patients. Parfois, même quand on se regarde, ça n'empêche pas le fantasme et ça n'empêche pas la projection. Et ça n'empêche évidemment pas, de fait, le transfert. Donc, pour vous faire un bref rappel de la seconde théorie des pulsions, du coup, qui n'avait pas tellement été évoquée les fois passées, je pourrais juste vous dire, globalement, c'est un livre que Freud écrit en 1920, qu'il nomme « Au-delà du principe de plaisir ». Ça laisse supposer qu'il avait théorisé quelque chose avant du côté du principe de plaisir, et que là, il dit « on va essayer d'aller au-delà ». Il essaie d'aller au-delà, on ne sait pas trop poussé par quoi, en tout cas, peut-être par simplement l'envie de tâtonner, de se dire que le modèle n'est pas suffisant, et puis de voir où ça pourrait le mener, de pousser un petit peu plus loin ses réflexions. Dans ce modèle, il va y développer une idée qui serait une dialectique pulsion de vie, pulsion de mort. Sur l'idée fondamentale que la pulsion, prise dans un effet de compulsion de répétition, comme ça, répète quelque chose à l'identique. Ça part aussi d'un constat clinique, somme toute, qui est celui des névroses de guerre, où il s'aperçoit que les gens répètent, sont pris dans les processus de répétition, et que ces processus de répétition, ils ne sont pas forcément liés à une répétition qui vise au plaisir. Voilà. Parce qu'ils répètent des choses, qu'on répète une expérience agréable. Ça paraît assez logique. On aime la glace au chocolat, on va s'en racheter une autre. Et puis dans un mois, on s'en rachètera une. Bon, voilà. A priori, ça, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Qu'on se mette dans une situation où systématiquement, on est attaqué, on est malmené. On peut se mettre dans une relation de couple foireuse. Et puis, avec la prochaine ou le prochain, finalement, on répète. Et comme par hasard, les enjeux sont à peu près les mêmes, d'une femme à l'autre, d'un homme à l'autre. Et Freud s'interroge un petit peu là-dessus. Pas sur les couples, mais en tout cas, il s'interroge sur cette dimension de la répétition, comme ça, qui paraît assez surprenante. Pourquoi on répéterait des expériences qui nous font du mal ? Il en arrive... Je schématise, mais du coup, je ne veux pas vous parler de Freud tout le long. Donc, je suis obligé d'y passer un peu vite. Mais globalement, il finit par se dire que le but de la vie, c'est la mort. Ça, c'est ce qu'il dit, hein, pour le citer. Il dit « Le but de toute vie est la mort, et en remontant en arrière, le non-vivant était là, avant le vivant. Voilà. » Donc, il y a cette idée, peut-être que ça parlera aux philosophes. Il s'est aperçu aussi, dans cette réflexion, dans ce livre, il s'aperçoit que chez les enfants et chez les adultes, ce n'est pas la même chose. Il dit un adulte à qui on raconte une blague, si on lui répète la blague, la deuxième fois, il ne va pas se marrer. Un adulte qui va voir une pièce de théâtre, la deuxième fois qu'il va voir une pièce de théâtre, il risque de s'ennuyer. Un adulte qui vient de lire un bouquin, si on lui proposait de le relire le jour d'après, il ne le ferait pas. Et ce qui est surprenant, c'est que l'enfant, lui, quand on lui raconte une histoire, il demande à ce que le livre soit répété. À l'identique. Et quand même la maman, le papa, l'éducateur quelconque essaye d'y mettre un peu d'innovation, un peu de créativité, il essaye de faire une petite variante. L'enfant, là, il râle, il fait « Non, c'est pas ça que tu as dit tout à l'heure. » Donc Freud, il s'aperçoit de ça, il dit « C'est quand même curieux. C'est quand même curieux que l'enfant, lui, apprécie la répétition à l'identique, dans quelque chose qui pourrait paraître presque mortifère pour un adulte. Enfin, et en l'adulte, lui, quand il raconte l'histoire, il n'a pas envie que ce soit pareil. Enfin, alors que c'est ça dont l'enfant a besoin. Et du coup, dans cette idée comme ça de ce que l'enfant prend plaisir à répéter, il s'aperçoit que finalement, ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est de retrouver l'identité. Voilà. Et que le fait de retrouver l'identité de l'objet, on pourrait dire, est une forme de satisfaction en soi. Alors qu'il développe que la condition de la jouissance chez l'homme adulte est liée à la nouveauté. Voilà. Hormis la nouveauté, pas de jouissance possible. Ça peut se débattre, hein, enfin, je veux dire. Freud a dit aussi des conneries. Il dit, nous ne pouvons résister à la tentation, quoi il dit nous, c'est lui, enfin, nous ne pouvons résister à la tentation de pousser jusqu'à ses dernières conséquences l'hypothèse d'après laquelle tous les instincts se manifesteraient par la tendance à reproduire ce qui a déjà existé. Quand il parle d'instinct, il parle de pulsion. Alors, je vous dis ça parce que du coup, il y a eu des précisions comme ça, lexicales, sémantiques, qui ont été faites et qui sont importantes. Hein. Mais après, en fonction des traductions sur lesquelles on s'appuie, voilà. Winnicott aussi, je vous le dirais, voilà, il a pris appui sur les œuvres complètes de Freud traduites par Strachey, qui lui avait traduit l'équivalent de, enfin, Trieb en allemand. Il l'a traduit par Instinct. Plutôt que par drive, qui serait peut-être le terme le plus juste, quoi. Et du coup, quand Freud évoque ça par rapport aux enfants, le fait que de retrouver l'identité comme ça, retrouver l'identité de l'objet, c'est la condition de la prise de plaisir par l'enfant, ça peut nous interroger hein, par rapport à l'adulte. On pourrait se demander pourquoi. C'est peut-être aussi pour ça que Freud et Winnicott, après, sont partis sur des voies divergentes, parce que finalement, ils n'avaient pas forcément la même pratique. Même si Winnicott avait aussi des enfants en thérapie, des adultes en thérapie. Du coup, rencontrer l'objet, c'est rencontrer le même pour l'enfant, le déjà connu, hein, le déjà vu. Ça tient à l'habitude. Et en pensant à ça, je m'étais dit finalement, l'habitude, ça renvoie aussi à la routine. Dans sa forme dépressive, nous, en tant qu'adultes, on pourrait appeler ça l'ennui. Et dans sa forme rassurante, on pourrait appeler ça la continuité. Et Winnicott, d'ailleurs, disait à propos de l'ennui que, il menait une discussion comme ça auprès de prêtres qui s'occupaient des fois de gens en difficulté. Et ces prêtres lui avaient demandé, mais comment savoir si quelqu'un est malade au sens psychiatrique ou si quelqu'un est sain? Toute proportion gardée sur l'usage de ces deux termes. Et Winnicott avait répondu, si la personne commence à venir à raconter ses problèmes et qu'elle vous ennuie, vous pouvez vous dire que là, elle relève de la psychiatrie. Et je crois qu'il y a quelque chose à penser comme ça autour de l'ennui, dans ce qui contient justement peut-être des pulsions de mort même si Winnicott ne voulait pas y croire. L'autre côté, le côté rassurant, celui de la continuité, en tout cas rassurant pour l'enfant, sous une forme de permanence comme ça, c'est à mettre en lien avec ce que Winnicott a développé du côté du sentiment de continuité d'existence. Alors l'identité, on peut la penser en tant qu'identité de l'objet, l'identité de l'expérience, mais aussi l'identité du sujet mu par ses pulsions. Le sujet qui retrouve l'objet, il vit l'expérience d'être un sujet retrouvant l'objet, se retrouvant dans l'objet. Voilà. L'objet, c'est à cet endroit-là un moyen de se retrouver soi-même. Et de fait, de retrouver ses propres expériences. Il y a un côté rassurant, quand même, à ça. Voilà. Ça va contribuer à ce que Winnicott a développé en termes d'intégration et de personnalisation. Je vais vous en parler plus tard. Et c'est vrai que même chez les adultes, quand on retrouve une expérience, ça amène pas forcément la jouissance, mais ça peut amener de la rassurance, ça peut éviter de l'angoisse. Pour accrocher quand même à ce que le père Freud nous avait raconté, en 1920, donc je vous ai dit, il développe cette dialectique comme ça, pulsion de vie, pulsion de mort. Il dit que les pulsions du moi, qui sont celles d'autoconservation, comme ça, iraient vers une forme régressive, vers quelque chose d'un aspect régressif qui tendrait à la compulsion de répétition. Alors que de l'autre côté, il les oppose aux pulsions sexuelles, qui irait du côté de la vie, voilà, qui irait de l'avant vers le renouvellement des expériences potentielles finalement. Et à la fois, il émet beaucoup de critiques par rapport à ça. Freud lui-même, par rapport à ce qu'il écrit, il est vraiment dans le doute. Enfin, moi, je vous invite à lire ce livre. C'est assez, ça peut être barbant parfois, mais il y a certains aspects sympas. Et on s'aperçoit comment il tâtonne comme ça un petit peu avec cette construction. Et il dit bien que il a eu cette idée, c'est une spéculation, cette spéculation libre à nous d'y croire ou non, et qu'à la fois l'expérience clinique n'a permis jusqu'alors de démontrer que l'existence de la libido, du côté des pulsions, et que rien en termes d'expérience clinique en 1920, et à sa connaissance, lui a permis d'accéder à quelque chose des pulsions de mort. Donc il va quand même développer un modèle en disant ça, on émet l'hypothèse que ça existe, mais on ne l'a jamais rencontré. Claire, je souhaite intervenir. Maintenant que c'est dit dans le micro pour la bande, tu es obligée de parler.
Non, je voulais juste signaler quand même le contexte dans lequel ça a été écrit. Parce que tu disais tout à l'heure qu'on ne savait pas trop comment ça lui était venu, cette idée de parler de la pulsion de mort et de l'au-delà du principe de plaisir, juste pour... Pour resituer ça dans un contexte historique, c'est quand même dans le contexte de la guerre qu'il écrit ça, et que c'est sans doute pas pour rien qu'il peut penser un au-delà du principe de plaisir, et si dans l'expérience clinique il rencontre pas la pulsion de mort, ce qui m'étonne, en même temps, on peut penser que dans l'expérience historique qu'il est en train de vivre, il la rencontre.
Oui, parce qu'il dit « l'analyse nous a permis de prouver que l'existence de pulsions libidinales ». Donc il dit bien, quand il fait la dialectique entre les deux, en disant « pour l'instant, l'expérience ne nous a pas permis de démontrer ce dont on parle ».
Enfin bon, le fait qu'il y ait la guerre et que des êtres humains soient capables de s'entretuer, et que lui-même est aux prises avec un cancer.
C'est vrai.
Lui-même est aux prises avec un cancer. Et que...
Alors du coup, certes, de rencontrer la mort, oui, cliniquement, on peut la rencontrer. La question de la pulsion de mort, c'est-à-dire d'une pulsion, d'une propriété innée chez tout vivant qui tendrait à, finalement, à la destruction de ce propre vivant. Ça veut dire qu'il y aurait une force en soi, ça c'est du côté de Freud, qui ferait que, à l'intérieur de soi, on pourrait être poussé vers la mort. Alors, certains du côté de la clinique peuvent arguer du côté d'une mélancolie assez forte comme ça, où effectivement, là, il y a quelque chose qui paraît assez dur et comme une force en soi qui tire vers la mort, et on se demande un petit peu d'où ça vient. Winnicott, il va essayer de rejeter ce modèle de différentes façons. Tout d'abord, il en parle en termes de spéculation. Et c'est Freud lui-même qui dit que c'est une spéculation. crois que c'est au début du chapitre 5 où il dit, voilà, ce que nous avançons ici est une spéculation, libre à chacun d'y croire. Et Winnicott n'aura de cesse que d'utiliser cette idée-là, sachant que c'est véritablement central quand on lit Freud, et même pas entre les lignes, où il parle de théorie hypothétique, de spéculation à plusieurs reprises sur la seconde partie de cet ouvrage. Winnicott, finalement, enfin, j'étais amené à me poser la question, c'est en aucun point une certitude, mais à me poser la question de savoir si finalement sa conception n'était pas moniste à cet endroit-là, plutôt que dualiste, hein, au niveau des pulsions. Voilà. Refusant l'idée de pulsion de mort, j'avais envie de dire, un peu pour paraphraser une expression connue de Winnicott, quand il dit un nourrisson, ça n'existe pas seul, sans des bras pour le porter, des yeux pour le regarder, une psyché pour le penser. J'avais envie de me demander si finalement une pulsion de mort, ça n'existait pas sans une pulsion d'amour. Et finalement, est-ce que les deux ne seraient pas intriqués? Winnicott, il poursuit cet ouvrage au niveau de la nature humaine en disant que la pulsion est la clé. Il dit que c'est la clé de la santé dans la petite enfance. Alors, il explique que selon lui, c'est le nom, la pulsion, donc serait le nom donné à la puissante poussée biologique qui va et vient dans la vie de l'enfant, petit et grand, et qui exige l'action. Les agitations pulsionnelles provoquent l'enfant, comme tout autre animal, à des préparatifs débouchant sur leur satisfaction. Et puis il dit après que pour lui, il n'est pas nécessaire d'entrer dans une discussion sur la classification des pulsions, ni même de décider s'il y en a une seule, deux ou plusieurs. Voilà. Tout ça, pour lui, dit-il, est sans pertinence. Donc il balaye un petit peu comme ça d'un revers de plume les conceptions freudiennes. Je vais essayer de vous amener un petit peu, parce que je vois que le temps passe, sur ce que lui a développé. Il développe l'idée d'un amour primaire impitoyable. Une pulsion d'amour primaire qui serait à la base de tout. L'idée, c'est que globalement, et là, il prend appui sur la clinique. Pour Winnicott, il y avait cette particularité, finalement, que la théorie, elle devait prendre appui que sur la clinique, et que quand il rencontrait un fait clinique, c'était pas une hypothèse, c'était un fait. Et donc, il avance comme ça, en avançant des faits. Alors que Freud, plus grand théoricien, je dirais, avance en amenant des hypothèses, qui construit, déconstruit, reprend, modifie. Et du coup, il amène ce fait que le nourrisson, quand il rencontre ses premiers objets, il est mu par, on pourrait dire, une appétence qui pourrait être celle de la satiété, par exemple, de rechercher la satiété. Un nourrisson a faim dans son premier pas théorique. Il rencontre l'objet, et en faisant ça, il va exercer sur lui une agressivité première, une forme de destructivité qui, in fine, fait que, du coup, il vide le sein, fantasmatiquement, on pourrait dire. Prendre le lait, c'est épuiser le désir, du côté du fantasme. Je vais essayer de vous expliquer ça du côté de ce qu'il développe, du côté du développement affectif primaire. Il conçoit finalement que, au tout début, on pourrait imaginer que l'enfant, le nourrisson, passe par deux grandes étapes qui seraient celles de la pré-sollicitude, il dit pré-concern, et celle de la sollicitude. Ce terme de concern, on peut l'entendre, c'est être concerné, capacité de se soucier. La sollicitude, elle est en lien avec la position dépressive de Melanie Klein, par exemple. Peut-être aussi à mettre en lien avec la dimension de gratitude. Globalement, ce que Winnicott dit, c'est que se soucier, ça demande qu'on puisse être conscient déjà que l'autre existe, pour soucier à l'égard de l'autre. Le nourrisson, au début, il se dit pas, tiens, est-ce que ma maman est dépressive? Peut-être que si je la satisfais pas en tant qu'enfant, elle va être triste. Le bébé, il n'est pas capable de ça. Donc, pour arriver à cette étape-là, il faut quand même en passer déjà par différentes étapes. Ça demande de prendre conscience que l'autre existe, l'autre ressent des choses, que soi-même on existe, que soi-même on ressent des choses, et que peut-être que parfois les choses que l'on ressent en nous, elles ne sont pas sans lien ou sans incidence avec ce que l'autre peut ressentir. Et que plus on va pouvoir élaborer les liens, les rapports comme ça, qu'il peut y avoir entre ce que nous on ressent et ce que l'autre ressent, plus l'enfant va aller vers des relations complexes d'objets, comme ça, on pourrait le dire, ou en tout cas il va accéder à une possibilité de rencontre humaine. Pour accéder à ça, il faut en passer par différentes phases qui sont, Winnicott dit, l'intégration, la personnalisation et la réalisation. C'est les trois choses que je voulais essayer de vous présenter ce soir, essentiellement autour de l'intégration et de la personnalisation. Après la réalisation, je pense que ça pourrait être abordé un petit peu plus tard. Ces trois étapes, elles sont fondatrices dans le développement du tout petit enfant. Et globalement, on les rencontre aussi chez les plus grands enfants. L'intégration, ce serait l'idée de rassembler des expériences pulsionnelles avec des sensations. Winnicott définit pas vraiment ce que c'est. Il dit que ça peut se penser par opposition avec la désintégration. La désintégration de la personnalité, c'est un syndrome psychiatrique connu. On dit qu'un patient a une personnalité comme ça désintégrée. Lui, Winnicott, va parler de désintégration régressive. Il va parler de non-intégration primaire. Il estime que la désintégration, ça renvoie à des états de dissociation. Et ça, les états de dissociation, on les rencontre aussi dans des états psychiatriques chez l'adulte. Être désintégré ou être non-intégré, alors, Winnicott, il dit globalement, au début, le bébé est non-intégré. Hein. Il n'est pas intégré. Il va, grâce au travail des pulsions, pouvoir atteindre l'intégration, grâce à l'appropriation du travail des pulsions. Et une fois l'intégration acquise, entre guillemets, à supposer qu'elle puisse un jour s'acquérir totalement, on ne pourra jamais réaccéder à cet état de non-intégration. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est une désintégration, hein, pour bien préciser les deux. Il dit que l'intégration, elle est issue de deux séries d'expériences. La première série d'expériences, c'est la technique des soins infantiles. Le fait que l'enfant soit tenu au chaud, manié, bercé, appelé par son nom. La seconde série d'expériences, ce sont, il dit, les expériences pulsionnelles aiguës, voilà, qui, l'intérieur, rassemblent les éléments de la personnalité et en font un tout. Des soins premiers, qui seraient des soins corporels, dont Winnicott peut en dire que les soins corporels à cet âge ont la qualité des soins psychiques, voilà, c'est-à-dire que soigner un nourrisson psychiquement, c'est aussi prendre soin de lui, et c'est sans doute avant tout prendre soin de lui corporellement, dans ce qu'il est, aussi de sa réalité somatique. L'intégration, ça va permettre de vivre dans son propre corps, nous dit Winnicott, et d'être capable de sentir que le monde est réel, ce qui permettra par la suite la réalisation. Concernant la personnalisation, qui serait l'étape suivante, ou quasiment contingente, il dit qu'elle est issue des expériences instinctuelles aussi, et des expériences paisibles, répétées, de soins corporels. Donc on voit bien comment ici, aux premières phases comme ça de la vie infantile, il y a quelque chose qui doit se lier entre les soins apportés par l'environnement, la mère environnement, et puis les expériences, on pourrait dire, primitives, comme ça, pulsionnelles. Il dit, là juste pour vous le citer un petit peu, qu'une fois que l'individu a atteint cette étape de la sollicitude dont je vous parlais tout à l'heure, l'enfant ne pourra plus ignorer le résultat de ses impulsions ou l'action de fractions de lui, telles que la bouche qui mord, les yeux qui poignardent, les cris perçants, la gorge lors de la tétée. La désintégration, c'est l'abandon aux pulsions non contrôlées, parce que leur action est indépendante. Il dit qu'en outre, cela évoque l'idée de pulsions qui sont pareillement non contrôlées, parce que dissociées, mais dirigées contre soi. Il y ajoute une note, comme ça, non sans humour, en disant non seulement les crocodiles versent des larmes lorsqu'ils ne sont pas tristes, des larmes de pré-sollicitude, mais ils représentent aussi le self primitif cruel. Et là, on rejoint cette dimension de ce que je vous évoquais tout à l'heure, de l'amour comme ça, cette pulsion d'amour primitive, comme ça, primaire, qui contient en soi une dimension agressive. Par rapport à... je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter du coup l'intégration, ce que ça veut dire, d'être assemblé. Globalement, des fois, on dit des enfants qui sont dispersés, dissociés, morcelés. Je m'interrogeais l'autre fois avec Claire comme ça, en me disant d'être en mille morceaux. J'essayais de retrouver une berceuse qui parlait de ça. Je ne trouvais pas de berceuse, une comptine aussi. Et puis je me disais, la comptine, c'est trop tardif. C'est pas à l'âge des comptines qu'on a besoin d'être, qu'on a besoin de vivre l'expérience de l'intégration. C'est à l'époque des berceuses. Nicotte, il parle d'une berceuse comme ça britannique, mais sauf s'il y a des britanniques dans la salle, qui ça parle de Humpty Dumpty de Lewis Carroll, où ça dit Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty have a great fall. Comme ça. Bon. Moi, Humpty Dumpty est sur un mur, était sur un mur, Humpty Dumpty, c'est la margoulette, quoi, en gros, enfin, c'est un combat. Et du coup, après, il est en mille morceaux, Humpty Dumpty, c'est un personnage œuf, comme ça, en forme d'œuf, hein, je ne sais pas si vous voyez dans les écrits de Lewis Carroll. Et après, j'ai essayé de rechercher un petit peu quelque chose qui serait l'équivalent du côté de berceuse. Si vous avez des idées, on s'en parlera. Je n'ai pas trouvé. Et voilà. Par contre, je pensais, je voulais remercier du coup un petit patient ce matin. Je vois que l'heure passe, mais c'est pas grave, j'avais envie de parler de lui. Qui a 13 ans et qui du coup a eu la gentillesse de me faire vivre quelque chose du côté de la lutte contre la désintégration. C'est un jeune garçon qui va relativement bien, sauf que il a peut-être eu des soucis, on pourrait dire, avec ces dimensions d'intégration, de personnalisation, de réalisation, voilà. Dont on sait que quand elles n'arrivent pas bien à s'organiser, elles renvoient à quelque chose du côté de l'autisme ou de la psychose. Et ce matin, du coup, il était un petit peu perdu avant de venir. On n'a pas réussi à se trouver, je le cherchais, il me cherchait. On était tous les deux un petit peu perdus dans l'espace et le temps. Et puis je croise le psychiatre qui me dit, en vous attendant, il se tapait la tête contre le mur. Je me suis dit, l'attente était un peu compliquée. Il arrive, et là, très adapté, il commence à jouer avec mon agrafeuse. Il joue, il me demande où est-ce que ça se recharge, tout ça. Je lui explique. Puis après, il lui vient l'idée qu'il pourrait s'agrafer la main, ou s'agrafer l'oreille. Je lui dis qu'il risque de se faire mal dans la réalité, que même si là, on pourrait être autour du jeu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc je lui dis ça, il ne s'aggrave pas. Il y a là juste la pointe qui fait marque, mais ça ne va pas plus loin. Et puis après, il se met à dessiner un fou. Alors on discute comme ça autour de ce fou. C'est un fou quoi ? Un fou ? Un malade mental ? Non, c'est un fou, parce qu'il m'avait déjà dessiné des fous, des gagas, des gens tarés. Enfin. Et là, il dessine un personnage qui est fou. Et en fait, c'est un fou du roi. C'est un fou du roi parce qu'il a un pompon avec un gros lot comme ça et un chapeau. Et qu'est-ce qu'il fait faire à ce fou du roi ? Je sais que ça me revienne quand même. J'ai pris plein de notes ce matin du coup, mais le défaut de prendre des notes, c'est qu'on oublie ce qui s'est passé. Oui, il lui fait une corde à sauter. Il lui fait une corde à sauter et cette corde à sauter, donc le fou il saute. Et sur les poignées des cordes à sauter apparaissent des feux d'artifice. Ces feux d'artifice, en fait, ce seraient des fusées. Ce serait comme des réacteurs. Et alors le fou, il se met, le dessin hein, qu'il a fait, il se met à voler dans les airs, comme ça. Voilà. Il vole dans les airs, et il finit toujours par retomber comme ça sur le sol. Et au bout d'un moment, il a pris une certaine angoisse, et il dit, je ne peux pas le laisser comme ça, et il commence à l'agrafer. Il lui agrafe les yeux, pour pas que les yeux, il s'en aille quand il se met à voler avec les réacteurs. Il lui met deux grands coups d'agrafe sur les yeux. Deux agrafes sur les yeux, après il dit pour la tête. Il faut que j'en mette sur la tête, il en met trois sur la tête, en disant peut-être qu'il va choper la grosse tête. Le jeu de mots, donc c'est un enfant qui va relativement bien malgré tout, hein. Je veux dire, il est quand même capable. Hein. Et s'il allait mal, il pourrait pas me parler de sa désintégration comme ça, parce qu'à la fois, enfin on pourra en reparler après, mais Donc du coup, il agrafe, et puis les pieds, les mains. Donc il n'arrive pas à accéder aux pieds, donc du coup, il découpe autour du bonhomme. Donc l'agrafeuse, vous savez, l'agrafeuse, c'est frustrant, c'est limité, on ne peut pas accéder au milieu du papier. Alors du coup, il découpe autour, comme ça, et il vient réussir à agrafer un petit peu comme ça, toutes les parties du corps, pour éviter que le corps se morcelle et parte en mille morceaux, comme ça, quand le fou va s'envoler. Et après, d'une main, il prend ce dessin, personnage, et puis il dessine un sol, pardon, et il l'agrafe au sol aussi, sur le dessin. Et il le tient comme ça sur la table, et puis après, il y a quelque chose qui le retient, du coup c'est le sol, et puis il y a une autre partie qui fait qu'il voudrait s'envoler, parce qu'il y a les réacteurs au bout des manches de sa corde à sauter. Et ça tire, ça tire, ça tire, et ça finit par déchirer le papier. Malgré les agrafes qu'il avait mis dessus, le papier se déchire, et là le corps perd de sa consistance. Il dit, c'est devenu un chiffon, quelque chose comme ça. Il est en chiffon. Donc du coup, il l'arrache, la tête part. Enfin, mais il parle de tout ça, ça va assez bien, quoi. Il le vit sans trop d'angoisse. Du coup, il se dit qu'il faut le faire recoudre par un médecin. Et il va le faire recoudre par un médecin. Le problème, c'est que le médecin est taré. Il me dit, il est pire que lui, pire que le fou. Et il me dit, je trouvais ça poétique, j'ai noté comme ça. Il dit, le médecin a mis les jambes au pompon, les pieds au menton. Voilà. Et donc du coup, il le recoue avec des coups d'agrafe, hein, comme certains médecins font en vrai finalement. Et il utilise aussi des agrafeuses. Mais il lui met en gros, les pieds sur la tête et il est remis ensemble sans dessus dessous. Et là, le fou, notre fou du roi, se balade après dans les airs. Il peut s'envoler tout ça librement, sauf qu'il est complètement l'image corporelle est complètement modifiée, il ne ressemble plus à rien. Et il erre dans l'espace, comme ça, pendant un temps. Enfin, je vous passe un peu les détails, parce que sinon ça va aller loin. Et du coup, il est assez, assez inquiété, malgré tout, par le fait qu'il ait les pieds sur la tête et tout ça. Donc je lui propose du scotch, à ce moment-là, en lui disant que ça pourrait être une autre façon de recoller les morceaux. Et là, il se met dans la position, il me dit, je vais soigner votre patient sera presque comme neuf, Oui, mais il va peut-être en garder les traces, mais non, vous inquiétez pas, je vais l'opérer, il n'y aura pas de souci. Il l'opère, et du coup, il rejoint les morceaux, donc là il arrache ce qu'il a fait, en le mettant n'importe comment, il rescotche à peu près comme il faut. Il reste des traces, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout une jonction un peu malhabile comme ça au niveau du scotch, donc ça laisse de la transparence entre les pièces. Puis il dit, bon, pour ne pas lui faire de la peine à votre patient, on va... il essaye de colorier un petit peu comme ça pour boucher les trous. Tout ça, je me disais, ce gentil garçon qui m'a amené ça comme ça ce matin, je me disais que c'était plutôt sympa parce que je n'avais pas, du coup, pas trouvé de berceuse. Lui, il m'a amené son monde interne. Et ce monde interne dans lequel on pourrait se dire que les choses vont assez bien. Vont assez bien dans le sens où, quand il m'a mis tout ça en scène, ça a demandé... un acte de cohésion, hein, de cohérence. C'est-à-dire que quelqu'un qui va très mal, quelqu'un qui est dissocié, quelqu'un qui est pris dans un mouvement de désintégration, il n'est pas capable de parler tout ça, de figurer tout ça du côté du jeu. Voilà. Là, il récupère quelque chose, il vient dire quelque chose, l'expérience qu'il vit parfois, comme ça, du risque de désintégration. En tout cas, il lutte contre la désintégration et il a la capacité de pouvoir... accéder à des formes d'expression en disant voilà à certains données comment je peux me ressentir. Je trouvais que ça, du coup, plus qu'un long discours théorique, ça pouvait bien permettre d'exprimer, enfin de faire en sorte que vous puissiez vous illustrer aussi qu'est-ce que c'est que l'intégration, qu'est-ce que c'est que la désintégration. Sachant que ce garçon, finalement, il est passé, on pourrait dire. Il n'est pas autiste, il n'est pas dans une psychose franche marquée type infantile. Il lutte peut-être contre la psychose, on pourrait dire. Mais pour l'instant, il continue à lutter contre ça. Donc ça veut dire que jusque-là, tout va bien. Du coup, ces expériences-là, elles sont fondamentales parce qu'elles vont permettre d'intégrer la vie pulsionnelle dans la psyché de l'enfant. Si je vous parle de ça, de l'intégration, de la personnalisation et de la réalisation, alors la réalisation, c'est, on va dire, la rencontre entre le sujet et la réalité, l'écart qu'il peut y avoir entre le fantasme et la réalité extérieure, le monde imaginaire, la rêverie et le monde extérieur. Du coup, ces trois étapes-là, elles sont fondamentales. La troisième, la réalisation, elle a plus à voir avec ce dont Pierre Durosard vous parlera la prochaine fois, hein, c'est-à-dire la rencontre avec le monde extérieur. Là, pour l'instant, on est plus pris dans le sujet face à ses pulsions. Voilà. Comment il doit se débrouiller avec ça? Il se débrouille comme ça, en essayant d'en faire un tout, en essayant de rassembler les expériences. Et à certains moments donnés de notre vie, on peut vivre, nous aussi, la désintégration. Ou en tout cas, des formes comme ça, un petit peu, de doute par rapport à ça. Par rapport à la personnalisation et la dépersonnalisation, Winnicott, il amenait comme ça deux, trois trucs sympas dans une note de bas de page. Il disait que la dépersonnalisation se retrouve dans la normalité, donc chez les sujets à peu près comme vous et moi, même si je ne vous connais pas beaucoup. Donc ça peut se retrouver dans un profond sommeil, dans des accès de prostration avec pâleur cadavérique, voilà. Ou alors il dit encore, elle est dans la lune, dit-on. Et on a raison. Voilà. Donc sur ces formes-là, et sur les formes aussi des compagnons imaginaires de l'enfance, voilà. Ces compagnons imaginaires de l'enfance qui sont, on pourrait dire, des formes externalisées du self. Le self, c'est un autre gros mot de Winnicott qu'il utilise, qui n'est pas vraiment le moi, qui n'est pas vraiment le soi, qui n'est pas vraiment l'individu. On pourrait dire que c'est, ce qui constitue le sujet autour de l'intégration de ces expériences unifiées du côté psyché-soma, comme ça. Hein. C'est-à-dire que ce serait le sujet et son corps. Enfin, le self, ça reste quelque chose d'énigmatique, comme ça. On pourrait dire, globalement, c'est une perception anglo-saxonne qui n'a pas réussi à avoir de lettres de noblesse en France. Une perception anglo-saxonne du moi freudien auquel se surajouterait je ne sais pas comment on pourrait le dire, je vais inventer des choses, le moi corps, le moi sujet, enfin voilà, des choses autour de ça, comme ça. C'est beaucoup plus complet, comment dire, beaucoup plus global, ou globalisant plutôt, que le moi freudien. C'est l'ensemble du sujet, pour sa partie psychique. Cette partie psychique, elle est liée pour Winnicott à l'intégration. Sans intégration, pas de psyché. Il dit, quasiment si on l'écoute, il pourrait dire, le bébé quand il naît, il n'a pas de psyché. Il a un cerveau, ça c'est sûr, mais il n'a pas de psyché. Il différencie bien les différentes dimensions. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que la psyché? Qu'est-ce que c'est que l'âme? Voilà. Et il dit bien comment, pour que tout fonctionne, il faut quand même une base qui est celle d'un cerveau qui fonctionne, à peu près. Si on a le cerveau qui fonctionne à peu près, au fil des premières expériences pulsionnelles, comme ça, et grâce à l'intégration va permettre que se forge la psyché, petit à petit. C'est ça qui va créer la psyché. Et puis par la suite, les choses vont s'affiner, vont se préciser, vont se conceptualiser. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas d'une aventure intellectuelle, hein. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est une expérience de pensée ou intellectuelle. Il s'agit simplement d'une expérience de rassemblement des expériences affectives vécues. Et c'est ça crée la psyché. Et puis au sein de la psyché, il y a des parties qui vont se spécifier. Il dit que l'esprit, ce serait la partie de la psyché qui serait spécialement dédiquée, spécialement dédié à la dimension intellectuelle. Voilà, l'esprit pour la dimension intellectuelle. Je vois que le temps passe. Et si on aura le temps de causer un peu après. J'avais quand même envie de vous parler du fantasme, au niveau de, pour reprendre, alors ça va être très rapide, parce que du coup, je voudrais quand même qu'on préserve un temps ultérieur. Il y a quelque chose qui apparaît central dans la théorie de Winnicott, qui développe au niveau de la nature humaine et de l'ensemble de son œuvre, c'est l'importance du fantasme l'importance de la fantasmatisation, de l'élaboration imaginative, il dit, dans le rapport à la vie pulsionnelle. Voilà. Freud avait développé ces différents stades libidinaux, comme ça, oral, anal, génital, ou phallique, je ne sais plus comment il dit. Et Winnicott s'inscrit en écart par rapport à ça. Il dit que chez le petit et le grand enfant, il existe une élaboration imaginative de tout le fonctionnement du corps, pourvu qu'il y ait un fonctionnement du cerveau. Et il dit que c'est tellement plus vrai, voilà, chez les enfants que chez le plus intéressant des animaux. Voilà. Et du coup, là, il fait des petites critiques à Freud aussi par rapport à ça, en disant que finalement, essayer de penser l'homme sur le modèle animal, ça a ses limites et ça peut être dangereux. Voilà. Mais il appuie toute sa théorie de l'intégration et de l'organisation pulsionnelle autour de l'élaboration imaginative et autour du fantasme. Et en ce sens-là, on retrouve bien un Winnicott freudien, c'est-à-dire qu'il reprend un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fantasme dans la cure, c'est que nous, on ne peut pas jouer de la même façon, pour être précis, qu'un enfant. On ne peut pas se lever du divan, s'agiter et prendre des objets et commencer à réaliser un drame personnel comme ça, de façon figurative du point de vue de la motricité. Néanmoins, on va essayer de contenir tout ça avec l'outil du langage, qui somme toute a ses limites. Et Winnicott nous dit que pour l'enfant, quand il est confronté à ses pulsions, grâce à ce que lui permet aussi l'environnement, la maman, le papa et tous ceux qui sont autour, l'enfant va essayer d'intégrer ça, de récupérer ça, et ça va s'organiser, selon lui, lui il trace, mais ça je vous renverrai, enfin vraiment à lire La Nature Humaine, c'est un bouquin qui se lit très facilement, il développe trois stades pour lui, le prégénital, le génital et le phallique. Et s'il les différencie comme ça, il dit, je renie pas les autres, c'est une autre façon de jouer avec la théorie. Il dit, c'est parce que ça correspond à la rencontre entre la pulsion et le fantasme. Freud, lui, a dit, au début, le bébé, tout passe par la bouche. Après, il s'occupe de ses fesses, après, il s'occupe de son zizi ou de sa zézette. Globalement, il y a à peu près de ça au niveau de la théorie pulsionnelle. Ça veut dire que les choses seraient saisies du côté du biologique et ne dépasseraient pas la question du biologique. Il développe un modèle théorique autour de ça, mais il met vraiment de côté, en tout cas dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, il met de côté le fantasme. Alors que Winnicott, quelques 50 ans, 49 ans après, il développe cette idée que les pulsions en soi, d'accord, ça prend appui sur le corps, mais une pulsion en soi, ça n'existe pas si on n'en fait rien. C'est-à-dire que le nourrisson est obligé d'essayer de créer un sens autour de tout ça, d'imaginer des choses. Voilà. Et il y a une élaboration imaginative des parties du corps qui font que, par exemple, quand le nourrisson est principalement préoccupé autour des affaires qui se passent au niveau de sa bouche ou de sa cavité, comme sa buccopharyngée, il va penser ça, il va produire des fantasmes autour de ça, et que la rencontre entre ces fantasmes, je ne veux pas aller trop loin parce que du coup après il y aura des choses qui seront abordées par Claire, mais que la rencontre entre ces fantasmes et la réalité, voilà, vont permettre aussi de viser au contrôle et à contenir comme ça les pulsions. Son modèle, globalement, il est que les pulsions sont des choses qui partent du corps, qui débordent de l'enfant, que ces pulsions, il faut apprendre à, on pourrait dire, Freud disait, les réprimer, les dominer, les dompter, voilà. Winnicott dirait finalement à les intégrer comme faisant partie de nous, et que pour les intégrer, et pour pouvoir ne pas être débordé par rapport à ces mouvements pulsionnels comme ça, ça n'est possible que grâce au fantasme. Globalement, après, on pourrait rentrer plus précisément sur chacun des stades, mais il dit bien, par exemple, comment la dimension génitale, et c'est pour ça qu'il dissocie génitale et phallique, comment le petit garçon ou la petite fille va être préoccupé, comme ça, à l'entrée en Oedipe, par la question de son sexe, du point de vue biologique, mais que pour autant, il ne peut pas en faire grand-chose, hein, à part la masturbation, ça ne peut pas avoir la finalité que c'est censé avoir. L'enfant à 5 ans ne peut pas procréer, voilà, il n'est pas en capacité de ça. Et donc du coup, il va devoir attendre. Voilà. Et il va devoir, utiliser à cet endroit-là l'imagination de qu'est-ce qu'il pourra en faire. Que cette imagination, cette dimension fantasmatique, vont prendre appui sur les effets d'identification aux parents, en se disant, plus tard, peut-être que je pourrais utiliser mon appareil génital pour faire des bébés. Voilà. Ou pour faire d'autres choses, pour prendre du plaisir avec d'autres adultes de mon âge. Mais toute cette dimension comme ça de la retenue qu'il va y avoir du coup, dans l'après-coup, au niveau de la phase de latence, va permettre le déploiement d'une activité fantasmatique intense autour des rêves, autour des jeux. Voilà. Et on sait à quel point la période dite de latence, si elle existe maintenant, je ne sais pas, parce que ça a été critiqué par beaucoup d'analystes. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose malgré tout qui continue d'exister à cet endroit-là, d'être préservé, ou en tout cas, qui, même si ça s'est aménagé sur des formes nouvelles, mais que la période de latence, à cet endroit-là, elle est le terreau fertile, comme ça, à la pulsion épistémophilique, hein, au désir de savoir, et au désir de rencontrer des choses. Et on sait bien que les enfants entre 7 et 11 ans, ils sont quand même pris là-dedans, et c'est sans doute pas pour rien que d'ailleurs l'école primaire tourne plus ou moins autour de cet âge-là, hein, c'est qu'ils ont une curiosité pour le monde, voilà, une curiosité pour toutes ces choses du monde, qui n'est pas sans lien avec la curiosité sexuelle, mais qui a pour avantage d'être dessaisi de l'excitation pulsionnelle qui viendrait du dedans et qui ne tardera pas à rattraper l'enfant à l'adolescence où là, question de lui apprendre des choses, on sait tous à quel point c'est compliqué et dès que la puberté et que la biologie reprend le dessus, voilà, il faut espérer qu'il soit suffisamment approprié de mécanismes comme ça ou de désirs autour du savoir pour en conserver quelque chose pendant la phase pubère, parce que sinon, il y a quand même quelque chose qui est un peu mis en couveuse, tellement il est débordé par ses pulsions. Et d'où l'importance d'avoir pu aussi les intégrer à la psyché de façon première. Il dit, je vais une petite phrase, après je vais peut-être arrêter. Non, je sais pas comment. Il dit que l'enfant joue, enfin l'enfant en bonne santé, l'enfant joue, oui, ça y joue parfois, mais l'enfant en bonne santé échoue, dans une certaine mesure, à tolérer les conflits et les angoisses qui culminent lorsque culmine l'expérience pulsionnelle. Les problèmes d'ambivalence inhérents à l'enfance parviennent à une solution à travers l'élaboration imaginative de toutes les fonctions, sans le fantasme, l'expression crue des appétits et de la sexualité et de la haine serait la règle. De ce point de vue, le fantasme s'avère la caractéristique humaine, la substance à la socialisation et de la civilisation même. Voilà, il donne vraiment une place centrale au fantasme, en disant que finalement, le fantasme, c'est ce qui constitue l'humain en tant qu'humain. En tout cas, à cet endroit-là où il écrit, puisqu'il y a peut-être d'autres choses qui le constituent. Mais, voilà. J'aurais voulu vous parler de l'excitation et de la tranquillité, des états d'excitation et de tranquillité qui sont en lien aussi avec ça, un petit peu. Mais je vais peut-être clore là, et puis si vous voulez qu'on s'en reparle, on pourra s'en reparler. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ah pardon, non, juste avant de m'arrêter là, c'est compliqué d'arrêter. Non, je voulais quand même dire un truc, parce que j'avais promis que j'introduirais à la suite, et puis voilà. Peut-être de dire que, pour Freud, la pulsion aurait sans doute eu un sens, voilà. Quand il réfléchit sur ces questions comme ça en 1920, qu'est-ce qui pousse le sujet à répéter des expériences traumatiques, difficiles, pénibles et tout ça, il s'interroge sur le sens de la pulsion. Hein. Il se dit, mais quel sens ça a, cette pulsion? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Et c'est une idée aussi qui a été reprise par des contemporains, hein, du côté, par exemple, René Roussillon, du côté de la pulsion messagère. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on s'aperçoit que Winnicott, même s'il est loin d'être absent dans la pensée, par exemple, de ceux qui développent la pensée messagère, que pour Winnicott, finalement, la pulsion, elle serait plus à la recherche d'un objet qu'à la recherche d'une satisfaction. Voilà. Que la pulsion, alors que là, pour Freud, elle tendait à la satisfaction, pour Winnicott, elle tendrait à la recherche d'un objet. C'est-à-dire, à rencontrer l'autre, à avoir une certaine prise, une certaine saisie sur le monde, une certaine saisie sur l'autre, et que ce serait là son objet fondamental et premier. Ce qui peut être mis en lien, par exemple, avec ce qu'a développé Paul Denis du côté de l'emprise. Comment c'est son bouquin? C'est « Emprise et satisfaction, les deux formants de la pulsion », quelque chose comme ça. Au PUF, au fil rouge, collection fil rouge, qui est intéressant. Mais du coup, voilà, Winnicott développe ça, et je voulais juste vous laisser sur cette réflexion, à savoir finalement, voilà, l'écart entre ce que Freud a pu penser du côté de la pulsion, étendrait à la satisfaction, et pour Winnicott, étendrait à la quête de l'objet, et donc en soi, la pulsion n'aurait pas de sens, n'aurait pas de sens déterminé. Mais par contre, les fantasmes qui l'accompagnent, oui. Voilà. Du coup, je m'arrête là vraiment. Merci.